Bonsoir à toute la famille Radio Maria, dessein bienveillant de Dieu, un dessein qui est formé depuis toute éternité par le Père éternel dans le mystère trinitaire, en voyant dans le Verbe, dans cet agneau immaculé, dans cet agneau dans l'avenir à naître pour nous diviniser, pour nous adopter comme fils, nous élire à la sainteté, et puis en même temps dans cette œuvre de récapitulation pour nous sauver. Et c'est ainsi que tout homme, toute femme est l'objet de cette pensée bienveillante que somme d'entre nous n'est le fruit du hasard. Et puis, depuis quelque temps, nous avons essayé de méditer, en quelque sorte, ces deux dernières séances sur l'Église, qui est justement, elle aussi, élue dès avant la fondation du monde, car si l'Église est le corps du Christ, si elle est l'épouse du Christ, si déjà le Christ est déjà prédéterminé à s'incarner dans le monde, c'est donc que son Église est déjà, elle aussi, élue de toute éternité, pour qu'elle soit la récapitulation de l'œuvre du cosmos, pour qu'elle rassemble l'ensemble des hommes par le bain du baptême, et que par cette agrégation, eh bien, tous les hommes et toutes les femmes puissent être non seulement sauvés, mais puissent être adoptés en vivant justement de ce grand mystère de la sainteté. Alors, nous avions réfléchi auparavant sur la présence de l'Église dans le dessein éternel de Dieu. Nous avons essayé de montrer comment se manifestait ce mystère de l'Église au cœur même de l'œuvre du Christ, puisque Jésus se fait continuellement en ce monde l'exégète de la pensée du Père. Il est le révélateur même du mystère de l'Église. Et à la dernière émission, nous avions pris du temps pour voir comment cette Église, cette épouse du Christ, se constituait déjà dans la croix du Christ, où en fait cette Église était en train de naître de l'homme nouveau, du nouvel Adam, où naissait la nouvelle Ève. Cette Église commence aussi à naître en raison même du cœur du Christ, puisqu'elle est ce révélateur de l'amour de Dieu, que l'Église commence à balbutier dans sa première vie au moment des apparitions du ressuscité, spécialement avec la mission de Pierre, et puis l'événement de la Pentecôte donne, on pourrait dire, non seulement la maturité, mais la majorité à l'Église qui, par l'événement de la Pentecôte, se constitue comme étant celle qui va évangéliser et révéler le mystère tout au long de l'histoire des hommes. Et quelle que soit l'histoire de cette Église, hein, puisque ça fait maintenant à peu près plus de 2000 ans que cette Église existe au service de la gloire de Dieu et de ce salut des hommes, et bien en même temps, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apostolicité de l'Église, mais aussi les témoins que sont les martyrs, les saints et les saintes, nous font comprendre d'année en année, de siècle après siècle, que l'Église est justement cette révélation du mystère de Dieu, mais qu'elle est aussi cette plénitude. Il n'y a pas à chercher autre part, on pourrait dire, sur une autre montagne, pour reprendre le beau dialogue entre le Christ et la Samaritaine, ou dans un temple désormais totalement dénudé, ou dans un temple totalement dépassé. C'est justement dans l'Église, c'est-à-dire dans le corps des chrétiens, dans cette agrégation de l'assemblée de tous les chrétiens, que se trouve la plénitude de Dieu, la plénitude de son mystère. D'ailleurs, quand on lit directement la théologie de saint Paul, on voit bien que l'Église, à la suite du Christ, est considérée comme sa propre plénitude. Elle est appelée communément le plérôme. C'est une expression un petit peu bizarre, je vous le concède. Alors si ce terme de plérôme est insatisfaisant pour vous, prenez ce synonyme comme étant la plénitude. Le Christ est en lui-même la plénitude du mystère de Dieu, et au cœur même de l'Église, eh bien, l'Église manifeste cette plénitude du Christ. La concentration, on pourrait dire, dans le Christ de tous les biens salvifiques destinés par Dieu à tous les hommes, eh bien, en lui se trouvent cachés aussi tous les trésors de la sagesse et de la science. L'apôtre d'ailleurs Paul veut convaincre à l'époque les Colossiens que le Christ est le détenteur des richesses inépuisables, afin d'ailleurs de les détourner d'ores et déjà de chercher en quelque sorte un autre maître que lui-même. Le Christ est pour les chrétiens une plénitude débordante, tenant du mystère d'ailleurs de l'incarnation rédemptrice. Alors, appliqué à l'Église, la considération de ce plérôme, de cette plénitude, devient alors un moyen facile pour comprendre cette expression « Église, corps du Christ », qui est d'ailleurs évoquée dans l'Épître aux Éphésiens que nous avions commenté auparavant. Je cite saint Paul, « Tête pour l'Église, laquelle est son corps, la plénitude de celui qui est rempli tout en tout ». L'Église apparaît ainsi, d'une part, comme le corps du Christ, mais d'autre part, l'Église se présente comme le statut, on pourrait dire, de cette plénitude. L'Église, en tant que plénitude, nous pourrions nous poser cette question, complète-t-elle le Christ, ou alors est-elle véritablement comblée par lui de tous les biens? Si vraiment on reprend la définition de saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, la réponse se dirige, vous l'avez compris, en faveur du second terme. L'Église contient en elle-même la plénitude du Christ. L'Église est donc ce corps du Christ qui remplit celle-ci de la plénitude de tous ses biens divins, de ses grâces, de sa bienveillance, c'est-à-dire de la totalité des dons de l'Esprit-Saint. L'Église est ainsi la plénitude du mystère parce qu'elle assure non seulement la présence, j'ai envie de dire, capitale du Christ ressuscité, mais aussi elle nous montre cette présence vivifiante et sanctifiante de l'Esprit-Saint. Alors je voudrais m'arrêter sur ces deux notions, Église, corps du Christ, et l'Église, plénitude du Christ. Faisons un arrêt sur l'expression « corps du Christ ». Saint Paul, en parlant de corps ou de tête, envisage plus d'ailleurs une personne qu'un simple membre d'un organisme. On peut donc comprendre la notion paulinienne de corps, appliquée d'ailleurs à l'Église, comme le moyen d'une métaphore pour souligner l'unité qui existe entre le Christ et son Église, sans jamais d'ailleurs nier ou contester l'altérité de cette dernière, c'est-à-dire que l'Église a véritablement sa part aussi autonome. Dans un ouvrage qui explique très bien le sens du Concile Vatican II, notamment de la Constitution sur l'Église, Lumen Gentium, dans un ouvrage brillant et très abordable pour tout le monde, qui s'appelle « Le visage du ressuscité », qui a été écrit par le célèbre dominicain français Marie-Joseph Le Guillou. Ce dernier montre que lorsque Paul parle de corps du Christ, il utilise cette signification juive de la fameuse chair, qui est un principe de solidarité et de parenté. L'Église est le corps du Christ en tant qu'elle est son alter ego, c'est-à-dire en tant qu'elle est aussi son épouse, son vis-à-vis. Alors vous comprenez déjà là où je veux en venir, c'est au livre de la Genèse. Adam est seul, il lui faut non pas une aide, mais il lui faut un alter ego, il lui faut un vis-à-vis, il lui faut une épouse qui est Ève. Et on voit déjà ici une préfiguration qui annonce dans le nouvel Adam l'expression de la naissance d'une nouvelle Ève qui est justement l'Église. Et probablement que saint Paul, on le sent, a envie d'utiliser cette référence pour signifier que le corps unique, le corps personnel du Christ mort et ressuscité, est justement un principe, est le principe de la nouvelle création, qui rassemble en lui, dans l'Esprit-Saint, par tous les moyens que sont les sacrements, mais aussi de l'Eucharistie, nous y reviendrons, l'assemblée des croyants. Les chrétiens sont donc assurés de cette solidarité du Christ qui est présente dans l'ensemble de leur existence personnelle. Si on veut reprendre, par exemple, l'encyclique du pape Pie XII, Mystici Corporis, on considère que l'Église n'est ni un corps physique, ni un corps moral, mais il dit qu'elle est un corps mystique du Christ. C'est vrai que c'est une expression complexe, mais pour mieux comprendre, on peut dire qu'elle désigne tout à la fois l'Église dans son aspect de réalité eschatologique, l'Église nous prépare à la vie éternelle, et en même temps, l'Église est considérée ici aussi sous son aspect d'une société visible, humaine et sacramentelle. La notion du corps du Christ est inséparable de la doctrine, d'ailleurs, de l'Ancien et du Nouvel Adam. Et par suite, elle est véritablement inséparable de la notion paulinienne de récapitulation. Chez saint Paul, on le voit bien, des rapports étroits se tissent entre cette métaphore d'épouse et cette métaphore de corps du Christ. L'image de la formation d'Ève semble servir à exprimer l'union intime qu'il y a d'ailleurs entre le Christ et l'Église, en même temps que sa dépendance. Elle maintient à la fois la primauté et la plénitude du Seigneur, et en même temps le besoin d'une aide pour achever son œuvre. L'expression paulinienne du corps du Christ, qui est d'ailleurs connexe à celle d'épouse, est véritablement une belle métaphore. Elle introduit aussi dans le mystère d'une manière assez solide pour que, dépassant cette image, on puisse d'ailleurs en cerner toute la réalité de ce propre mystère ecclésial. D'ailleurs, on peut dire que cela peut servir aussi à défendre l'indivisibilité de l'Église, ainsi définie comme une réalité, souvenez-vous, on en avait parlé à propos de la préexistence du Christ au moment des origines, où on parle que le Christ avait une nature théandrique, il y a à la fois quelque chose de divin et déjà de quelque chose d'humain qui est encore à produire, c'est un petit peu compliqué, je vous le concède, mais c'est une réalité théandrique de toute éternité. Eh bien, on peut d'ailleurs dire que l'Église a aussi une réalité théandrique. Elle est à la fois terrestre, elle est à la fois céleste, elle est à la fois glorieuse et elle participe véritablement du mystère de celui qui est totalement humilié au cœur même de la Passion. Voilà déjà un petit peu une manière de cerner cette réalité d'Église, de corps du Christ. Et puis en même temps, l'Église comme plérôme ou plénitude du Christ. Si on revient volontiers à cette distinction que saint Thomas d'Aquin déjà avait faite entre le Christ tête et le Saint-Esprit cœur, eh bien, on peut donc appréhender, comprendre le Christ en raison de son humanité comme étant le principe de motion pour le bien, de celui qui nous aide par grâce à faire le bien, et donc pour l'unité de tout le corps, tout en rappelant que le Christ n'exerce d'ailleurs cette motion, cette grâce, que dans la dépendance du Saint-Esprit. Il s'agit donc de dépasser cette image pour dire que le Saint-Esprit est justement l'âme de l'Église, qu'il est son principe de vie et d'unité. On peut dire que le Saint-Esprit joue dans l'Église un rôle analogue à celui de l'âme qui est en chacun et en chacune d'entre nous. Ainsi, nous pouvons dire que l'Église se trouve immortelle, c'est très fort, je le sais, mais ça dépasse une vision de l'Église qui serait une simple institution humaine de passage historique. Non, l'Église est immortelle. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'Esprit-Saint constitue son âme et que l'Esprit-Saint est immortel. Cet Esprit lui assure sa permanence. Cet Esprit lui donne la plénitude du don de la vie du ressuscité. On peut dire que là où est l'Église, même une Église minoritaire, le Christ ressuscité est capable de transformer le monde là où il se trouve. On pourrait se poser la question, est-ce là une caractéristique de la promesse du Christ faite à Pierre quant à l'indéfectibilité de l'Église par rapport aux portes de la mort ? Je le pense. Pierre, 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 tu as les clés du royaume et les portes de la mort ne prévaudront point contre l'Église. Donc, le fait que l'âme de l'Église soit le Saint-Esprit, l'Église peut alors être considérée dans son altérité aussi par rapport au Christ, son époux, comme on pourrait dire une personne conformément d'ailleurs aux vues de saint Paul que nous venons d'évoquer. Rappelons-nous, le chapitre 12 de l'Apocalypse nous présente cette femme vêtue de soleil et couronnée d'étoiles. Bien entendu, à Radio Maria, dans toute la famille, nous savons que c'est la Vierge Marie. Mais la Vierge, nous le savons, est le reflet, elle est l'archétype de l'Église. Donc cette femme de l'Apocalypse, c'est aussi l'Église, celle qui est mise en protection dans le désert des hommes, là où on renie Dieu, où les chrétiens sont mis au désert pour véritablement, en quelque sorte, accoucher de nouveaux chrétiens, accoucher par son propre mystère de vie, une nouvelle espérance pour une nouvelle humanité. Oui, l'Église apparaît bien comme une personne qui est donnée au monde. L'Église est donc ce corps, elle est cette plénitude du Christ, mais elle est constamment animée par l'Esprit Saint. Et j'ai envie de dire, frères et sœurs, chers chrétiens, chers catholiques, voilà pourquoi l'Église catholique, en quelque sorte, pendant toute cette vie de l'histoire des hommes, a toujours survécu à tous les assauts extérieurs et intérieurs à elle-même. Elle peut apparaître comme son maître en train de mourir sur le calvaire, et on le sait que le catéchisme de l'Église catholique en parle. Historiquement, il y aura un jour, nous dit le catéchisme, un échec de l'Église, apparent, historique, mais comme son époux, l'Église ressuscitera et elle montrera véritablement la gloire de Dieu et la victoire finale de Dieu sur les forces du mal et de notre adversaire principal, qui est Satan. L'Église est ce corps en tant que le Christ est son chef. Elle est donc sa plénitude en tant que le Saint-Esprit l'anime en son cœur, que l'Esprit Saint la remplit de sa divinité, car la divinité habite en l'Église corporellement, comme on pourrait dire, elle habitait dans l'humanité déifiée du Christ. On voit donc ces conséquences anthropologiques qui ne se font nullement attendre. On voit qu'il y a un lien ontologique qui peut être établi entre l'Église avec d'une part le Christ et d'autre part le Saint-Esprit. Cela nous permet justement d'appréhender l'Église dans son rapport trinitaire, mais immédiatement, cela nous fait comprendre que chaque chrétien, chaque personne humaine qui est appelée à cette filiation divine, à cette divinisation, a un véritable rapport intime au mystère de l'Église. Considéré en effet par rapport au corps unique du Christ, eh bien, on peut dire que la personne est un homme unique, constitue un homme unique dans le Christ, avec son propre mystère, avec sa propre destinée. Mais dans son rapport à l'Esprit Saint, qui remplit d'ailleurs tout en tous, c'est-à-dire dans la multiplicité humaine, le chrétien, la personne humaine appelée à la divinisation, et considérez alors, tenez-vous bien, je le pense, comme un tout. Avec le Christ, nous sommes uniques, chacun de nous est unique, mais par l'Esprit Saint, nous sommes un tout. Certains mystiques d'ailleurs disaient que la personne, alors nous lisons dans certains chants, est un mystère sacré. J'ai envie de dire que, avec certains mystiques, le chrétien est un univers, un cosmos à lui-même. L'homme sera-t-il en même temps une partie, un membre du corps du Christ par sa nature, mais il sera aussi en tant que personne un être qui contient en lui le tout. Et j'ai envie de m'adresser à nouveau aux auditeurs en faisant une petite parenthèse. Lorsque vous vous trouvez limité, lorsque vous vous trouvez inutile, lorsque vous vous trouvez peut-être assailli de tentations d'orgueil, ou peut-être même de tentations qui détruisent même le principe de l'humilité, ou surtout de la confiance, je suis rien, je suis nul. Non. En raison de l'Esprit Saint, par la présence de l'Église dans laquelle vous êtes membre de cette Église, votre âme, votre corps, toute votre personne, par le baptême, et on le verra tout à l'heure en recevant l'Eucharistie, vous recevez le tout. Donc j'ai envie de dire, chers frères, qui que vous soyez, chères sœurs, ne doutez plus jamais de ce que vous êtes aux yeux de Dieu et aux yeux du monde. Vous êtes le réceptacle de la totalité de Dieu. C'est extraordinaire. Je fais un parallèle pour celles et ceux qui ont fait des sciences physique ou mathématique, et qui pourront très bien comprendre ce que je suis en train de leur dire, puisque scientifiquement, nous arrivons à prouver que l'infiniment petit est le plus proche de l'infiniment grand. Et on pourrait dire que c'est justement dans l'infiniment petit que Dieu se plaît en tant qu'infiniment grand de faire en nous sa demeure. Le Christ fait donc participer ainsi son Église de la plénitude des dons de l'Esprit. L'Église est donc cette présence vivante sur terre de l'activité de l'achèvement du Christ dans et par son humanité glorifiée. L'Église est ce plérôme, cette plénitude, elle est le lieu de la plénitude céleste, puisqu'à travers l'initiative divine qui culmine à la croix, l'Église est la manifestation du mystère comme plénitude de celui qui accomplit tout en tous. Le Christ est plein de Dieu et remplit à son tour l'Église qui est pleine de Dieu. Vous vous rendez compte, l'Église est pleine de Dieu. On ne peut pas les critiquer, on ne peut pas la renier, on ne peut pas la bouder, on ne peut que la servir. L'Église est un lieu, est justement ce lieu de la plénitude divine, c'est-à-dire de la présence du mystère qui se fait connaître et qui se communique et se donne à travers toutes les générations. Nous avons donc vraiment abordé donc, cette notion d'Église comme corps du Christ, comme étant la plénitude du Christ, cette Église habitée par l'Esprit Saint comme étant son âme. Et tout ceci défini dans les textes du Nouveau Testament et dans la théologie de l'Église que cette Église est la présence du mystère. Et je rappelle que le mystère, c'est le Christ lui-même qui se révèle et qui se révèle dans son dessein bienveillant, dans son projet. L'Église est donc cette présence du lieu où va s'accomplir non seulement notre rédemption, mais où s'accomplit le projet de Dieu avant toute éternité, qui est celui de nous choisir pour être saints, comme la Trinité est sainte, et pour nous diviniser, c'est-à-dire pour nous donner par adoption la filiation divine, pour nous faire passer du stade de créature à celui de fils et de fille. L'Église est donc cette présence du mystère. Le mystère du Christ se prolonge dans la vie même de l'Église, dans son histoire, avec ses hauts et ses bas. L'Église tout entière est cette présence du mystère. Elle est la concrétisation du mystère. J'ai envie de dire pour ceux et celles qui cherchent Dieu, on ne peut le chercher en dehors de cette structure de l'Église. Car l'Église est cette réalité vivante qui est toute remplie de la présence de Dieu. D'ailleurs, le catéchisme de l'Église catholique nous en parle. Si vous voulez certaines références, regardez au numéro 772. C'est dans l'Église que le Christ accomplit et révèle son propre mystère comme le but du dessein de Dieu, récapitulé tout en lui. Saint Paul appelle ce grand mystère l'union sponsale du Christ et de l'Église. Parce que l'Église est unie au Christ comme à son époux, elle devient elle-même à son tour le mystère. Contemplant aussi en elle le mystère, Saint Paul s'écrira plus tard « Le Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Il suffit de rappeler à cet endroit, d'ailleurs, que le futur archevêque de Vienne, Mgr Schönborn, qui était la cheville ouvrière de la rédaction du catéchisme de 92, a écrit énormément d'articles, d'ouvrages que je vous recommande, notamment son très beau ouvrage « Aimer l'Église ». C'est peut-être aussi une question que nous pouvons en vérité nous poser. Est-ce que nous aimons l'Église? Est-ce que nous servons l'Église? Est-ce que nous aimons ce mystère de l'Église dans lequel nous sommes véritablement introduits? Est-ce que nous avons envie, là où nous sommes, quelles que soient nos vocations, d'être les serviteurs de ce mystère de l'Église? L'œuvre du Christ vise en effet à constituer l'Église. C'est aussi peut-être un moment de rappeler cette ecclésiologie de saint Thomas d'Aquin chez qui l'Église apparaît comme cette présence du mystère du Christ et comme son organisme de manifestation au monde. L'Église est par excellence, dit-il, la création du Christ qui la construit en personne sur le fondement qu'il est lui-même. Alors, nous ne voulons nullement éclipser l'horizon trinitaire qui se dévoile dans cette vision de l'Église. L'Église est en effet issue de la communion intra-trinitaire des trois personnes divines, cette communion qui a élu, rappelons-nous, la fondation du monde, tous les hommes, à participer par sainteté à la vie éternelle. Un appel à des fils appelés à devenir des fils. C'est dire que l'Église est cette matrice de la divinisation, elle est cette mère qui permet à tous les enfants de Dieu de devenir pleinement fils, pleinement homme. Cette Église manifeste dans cette communion trinitaire un mystère qui est véritablement contenu en elle-même, c'est justement celui de la communion au mystère trinitaire. En effet, notre mère, l'Église, c'est le lieu qui rend possible cette rencontre de connaissance amoureuse avec le Seigneur. C'est donc Dieu lui-même qui, dans le Christ, ne cesse de convoquer les fidèles. C'est lui qui les unit en un corps par son Esprit Saint. Et c'est l'unité qui nous rassemble tous, tout en étant une sorte d'immanence qui vient en nous, ne vient jamais de rien, par peu que venir que de Dieu. La communion qui existe entre les membres de l'Église ne résulte pas de leur disposition personnelle. Elle n'est pas une assemblée politique ou associative ou culturelle, mais la communion de l'Église, elle est justement cette présence de la sainteté divine qui vient à nous. L'Église se trouve être cette réalité résolument contraire à l'entreprise de la tour de Babel. Humblement, avec beaucoup d'humilité et de respect, pour ceux qui savent plus de choses que moi, et je vise des confrères, des théologiens, mais ce qui se passe actuellement en Allemagne, nous prions bien entendu pour tous nos frères allemands, dans une démarche de synodalité que l'on entend, on a vraiment l'impression que l'Église se construit par les chrétiens, elle se construit par le bas, avec des projets, alors j'ai envie de dire, serviraient des projets ambitieux, des projets orgueilleux, on a le droit aussi de se dire, avec des bons projets, avec des projets peut-être qui viennent par le cœur, à la rigueur, ne jugeons pas nos frères allemands qui peut-être ont envie, peut-être eux aussi, de purifier l'Église, mais la purification vient déjà de notre propre conversion, elle est un appel à l'Esprit Saint qui doit venir du ciel et non pas de la terre. Car quand on voit aussi bien l'enseignement de Jésus, mais aussi cet enseignement par excellence dans le livre de la Révélation, de l'Apocalypse, on voit bien que l'Église est descendue auprès de Dieu pour devenir ce peuple messianique de Dieu. Elle est porteuse du don que Dieu, par Jésus-Christ, fait au monde. L'Église est une communion dans l'Esprit Saint. Ce n'est pas la récapitulation délibérative d'une assemblée politique majoritaire qui donnerait une vérité. Pas du tout. Qu'est-ce que, en effet, que le mystère du Christ, sinon le mystère de la vie du Père et du Fils dans l'Esprit Saint, qui vient à nous à l'intérieur de l'existence humaine, pour qu'à son tour, cette existence humaine soit entière vécue dans le mystère trinitaire. Nous sommes appelés par la Trinité, à venir à la table de Dieu. L'Église se définit par sa relation à la communion trinitaire, et non pas simplement par un simple brigandage entre ses membres, cherchant le meilleur dénominateur commun d'une communion qui ne serait qu'humaine. Mais la communion, elle est avant tout divine. Elle est la source et l'exemple même de ce que peut être la communion intra-trinitaire. C'est dire que pour nous, la Trinité, c'est la source de cette communion qui vient toujours d'en haut et non pas d'en bas. Combien de fois le pape Saint-Jean-Paul II, combien de fois le pape Benoît XVI émérite, combien de fois notre pape François dit « la vérité ne vient pas du bas, elle vient du haut, elle nous vient de celui qui est l'expression même de la vérité, le Christ, dans son Église ». L'initiative est toujours laissée encore ici à la prévenance, à la bienveillance de Dieu, à sa grâce. L'Église ne reçoit pas sa propre histoire, pardonnez-moi, l'Église ne reçoit sa propre histoire que d'en haut, comme venant de l'autorité du Père, et non pas d'un pouvoir absolu ou actif, mais pouvoir d'une autorité qui nous libère. Et le discernement des temps et des moments en elle, eh bien, c'est l'affaire de l'Esprit-Saint. C'est de la Trinité que vient la possibilité offerte aux hommes de vivre avec elle dans le lieu de l'Église. Un lien d'ailleurs expérimental et vital avec le Dieu Trine s'établit donc au bénéfice de tous les membres de l'Église qui, dans la prière, par le don de l'Esprit-Saint, reproduisent en eux la communion qu'il aurait donnée en plénitude. C'est dire que l'Église est une union ecclésiale de charité avant tout. L'Église devient ainsi le lieu où est rendue possible cette communion. Communion de charité, une communion visible qui est le signe et le fondement de la communion avec le mystère trinitaire. L'Église devient ce moyen nécessaire et incontournable de discernement et de vérification de notre effective communion avec Dieu. C'est à partir de la qualité de cette communion existant dans l'Église que se discerne la qualité de notre relation avec Dieu. Cette communion ecclésiale est d'ailleurs laissé à la charge de certains membres qui sont les évêques et qui en sont les garants. C'est l'ecclésiologie d'une Église sainte qui, tout en se répandant jusqu'aux extrémités du monde, garde cependant son unité de la foi grâce à son apostolicité. D'une Église vivante qui, dans la communion de ses évêques, centrée sur l'Église de Rome, se sait chargée de constituer une société visible qui est la même foi, la même espérance, la même charité dans la communion d'une même Eucharistie. Cette ecclésiologie traduit d'ailleurs ce que les pères unanimement ont, à la suite des apôtres, entendu de la parole de Dieu. Cette ecclésiologie est donc normative en ses lignes essentielles et elle constitue comme une ecclésiologie fondamentale qui ne peut être remise en question aujourd'hui ou demain. Cette notion de communion constitue le patrimoine commun d'ailleurs, bien avant le schisme de l'Occident et de l'Orient. Cette communion est structurée par la médiation des évêques dans l'Église de Rome, dont l'Église de Rome est le centre. Alors je viens de dire que c'est justement dans l'Église que nous apprenons ce mystère qui nous met en relation avec cette vertu de la charité, dont saint Maxime le Confesseur disait qu'elle est l'avenir divin de l'homme. La charité est notre avenir divin de l'homme. Alors il faut dire que nous sommes ici en ce monde, dans l'Église, non seulement pour vivre de la charité, mais vous savez que vous comme moi, eh bien cela est bien difficile, que ça constitue parfois même notre chemin de croix, et que en effet nous sommes en ce monde comme un stage de charité, mais que nous pouvons véritablement la vivre au cœur même du mystère de l'Église, qui devient alors ce sacrement universel du salut. Ce salut qui est de portée universelle, bien que l'Église ne soit qu'un peuple, on pourrait dire, limité et particularisé, sa vocation est à hauteur universaliste. Le peuple de Dieu a ainsi pour vocation de réunir dans l'unité du monde entier tous les hommes et de les intégrer en lui-même. C'est d'ailleurs l'objet de la mission de l'Église. Elle est ce sacrement universel du salut, car c'est en elle que l'action de Dieu, qui veut diviniser les hommes, qui veut les sauver, qui veut les adopter, prend corps pour s'universaliser dans l'humanité entière. Notre Église est là pour signifier au monde Jésus-Christ en personne, dont sa transcendance la déborde de partout. J'ai envie de dire que l'Église ne continue pas purement et simplement Jésus-Christ, comme on le disait dans une ancienne théologie, plus qu'elle ne se substitue à lui, comme si le Christ aurait fondé une société qui devrait maintenant relayer après sa mort ses propres paroles, et puis en quelque sorte de nous apprendre à nous aimer les uns les autres. Non, l'Église est plus que cela. Elle manifeste Jésus-Christ dans l'intériorité d'une appartenance sacramentelle. Dans le dialogue œcuménique, je voudrais citer le père Brian Houghton, qui était un prêtre anglican, qui est passé dans la communion catholique, et qui avouait lui-même que, oui, dans nos églises protestantes, disait-il, on parle bien de Jésus-Christ. Et il disait, mais lorsque j'ai découvert l'Église catholique, j'ai vu que c'était en fait Jésus-Christ lui-même. Une véritable dépendance où le Christ se donne au cœur même de l'Eucharistie. L'Église est cette assemblée dans laquelle, par l'action du Saint-Esprit, le passé, Jésus-Christ, dans sa Pâque de salut, se rend présent en vue de l'avenir eschatologique du monde. C'est donc dans l'Eucharistie que l'Église manifeste en plénitude sa rencontre avec le Christ, en même temps qu'elle signifie le monde en sa réalité dernière. Là est le signe de l'achèvement du monde dans le Christ, de sa rénovation définitive jusqu'à la fin des temps. L'institution ecclésiale est ainsi débordée par son propre mystère, puisque le Christ, Seigneur des temps et des lieux, qui est manifesté dans la messe, dans l'Eucharistie, en un endroit déterminé de l'espace et du temps, déborde le monde entier. L'Église est le sacrement du salut à qui le monde et toute l'humanité, passée, présente et future, sont déjà soumis. N'est-ce pas l'expression extraordinaire de ces 12 corbeilles remplies de ce pain de bénédiction, après même le miracle de la multiplication des pains, pour nous signifier que l'Église est débordée même de son propre mystère, au cœur même qui est le corps du Christ et qui est la plénitude de l'Esprit Saint, qui ne cesse de nous apprendre cette charité qui nous divinise et qui nous prépare progressivement à la vie éternelle, qui a déjà commencé à partir du jour de notre baptême, comme étant la concrétisation du plan de Dieu qu'il a formulé lui-même avant la fondation du monde. Voilà aussi la bienveillance de Dieu. Voilà son projet bienveillant, son dessein bienveillant pour le monde. À nous d'en être les serviteurs, à nous d'en être les porteurs, à nous d'en être dans le monde la joie de Dieu. Merci, à bientôt.